RFI 19h30 à Dakar, 21h30 à Maputo et 20h30 ici à Paris.
Afrique Soir sur RFI, Sylvie Berruet.
Bonsoir à tous. Renforcer les partenariats entre le Nigeria et la France, c'est l'engagement annoncé par Paris à Abuja au premier jour de la visite d'État en France du président nigérian Ola Tinubu. 7 millions d'euros débloqués par la France pour la crise humanitaire au Soudan, une annonce du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot qui est en visite au Tchad. Il s'est rendu au camp d'Adré où sont réfugiés des Soudanais. Nous reviendrons sur la mort d'un ancien chef de guerre sanguinaire, Prince Johnson, ancien chef de milice pendant les guerres civiles au Libéria entre 89 et 2003, s'est éteint à l'âge de 72 ans. L'émotion est vive au sein du barreau du Cameroun après qu'un avocat ait été molesté par des gendarmes à Douala et la scène a été filmée par des témoins. Enfin les sports avec la suite de la CAN de handball féminin à Kinshasa. Voilà pour le sommaire. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a été reçu à l'Élysée pour une visite d'État. Elle doit permettre d'élargir les partenariats entre la France et le pays le plus peuplé d'Afrique et dans de nombreux domaines. Cette visite d'État, la première en 24 ans d'un président nigérian en France, a donné lieu à plusieurs promesses d'investissement d'entreprises françaises. De nombreux secteurs sont ciblés, l'énergie, les métaux rares, le numérique, la culture ou encore la défense. L'implantation d'une cinquième banque nigériane en France a également été annoncée et le président Bola Tinubu insiste sur l'importance de ces investissements étrangers alors que son pays traverse depuis des mois une terrible crise économique.
Comme le secteur financier nigérian investit de plus en plus en France, nous vous remercions d'avoir su créer un environnement propice à l'implantation de ces banques dans votre pays. Nous nous efforçons d'ailleurs de poser les mêmes bases pour faciliter les investissements français au Nigeria. Nous faisons d'ailleurs le maximum afin de stabiliser la situation sécuritaire sur notre territoire et nous nous rapprochons du but. Je peux en tout cas assurer à tous les investisseurs ici présents que le Nigeria est ouvert aux affaires et je vous remercie pour votre collaboration. Comme on le sait, un peuple qui a faim est un peuple qui se révolte. L'éducation des jeunes est donc particulièrement importante. Nous avons une jeunesse pleine d'énergie qui est bien éduquée et prête à être formée pour développer l'économie de notre pays. Et nous avons besoin de l'expertise française pour accélérer ce mouvement.
Des propos recueillis par Lisa Fabian. La France annonce aujourd'hui avoir débloqué 7 millions d'euros pour la crise humanitaire au Soudan. Une annonce faite ce matin par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui est en visite au Tchad depuis hier soir. Et ce matin, il s'est rendu dans la ville d'Adré, frontalière avec le Soudan. C'est là que se trouve un camp de réfugiés soudanais. Il est venu constater l'ampleur des besoins. Alexandra Branjon est notre envoyée spéciale.
Adré, c'est plus de 240 000 réfugiés soudanais qui vivent sous des bâches à moins de 2 km de la frontière. Chaque jour, entre 150 et 200 personnes supplémentaires y trouvent refuge. Les besoins sont énormes, nourriture, eau, soins médicaux, notamment les enfants qui, pour certains, arrivent en état de malnutrition et de déshydratation avancée. Jamais je n'oublierai les visages et les regards croisés ici à Adré, a confié le ministre français des Affaires étrangères, après avoir sillonné le camp en présence des différents acteurs. Humanitaire, Jean-Noël Barrot qui a exhorté les belligérants à cesser de jeter de l'huile sur le feu sans citer précisément de pays. Les Émirats Arabes Unis sont accusés par les experts des Nations Unies de fournir des armes aux forces de soutien rapide du général Emeti en les faisant transiter par la frontière tchadienne. La guerre elle-même, c'est avant tout la responsabilité des belligérants, a de son côté indiqué le ministre tchadien des Affaires étrangères aux côtés de son homologue français. La guerre au Soudan menace le Tchad parce que les combats les plus violents ont lieu à nos frontières, ajoutant que les deux pays partagent plus de 1084 kilomètres de frontières. Les généraux soudanais portent l'entière responsabilité de cette guerre, a-t-il insisté, tout en précisant que dans cette guerre, le Tchad garde sa stricte neutralité.
En Namibie, la présidentielle joue les prolongations. La commission électorale annonce ce soir 2 jours de vote supplémentaires dans 36 bureaux. Demain et samedi, une décision après les quoi couacs logistiques et les dysfonctionnements qui ont émaillé la journée de cette présidentielle. Hier, les opérations qui devaient s'achever à 21h heure locale se sont poursuivies jusqu'au bout de la nuit. Une affluence presque record pour ce scrutin qui pourrait faire basculer le pays dans l'alternance. Tant la SWAPO, qui est le parti au pouvoir depuis 30 ans, est devenue impopulaire auprès des jeunes, surtout en manque d'emploi. C'est une figure sanguinaire de l'histoire du Libéria qui vient de mourir, l'ancien chef de guerre Prince Johnson, qui aura marqué par sa cruauté l'un des conflits les plus meurtriers du XXe siècle en Afrique de l'Ouest. Devenu sénateur, il est mort dans un hôpital de la banlieue de Monrovia à l'âge de 72 ans, selon son parti, le MDR, Sidi Yansané.
Prince Yermit Johnson est surtout connu pour son rôle majeur dans la première guerre civile de 89. À l'époque, le chef de guerre soutient la rébellion de Charles Taylor, futur président du Libéria. L'année suivante, les miliciens de Johnson capturent le président d'alors, Samuel Doe, et le torturent sous l'œil des caméras. Cette séquence choquante montre un Samuel Doe à genoux, suppliant pour sa vie, pendant que Prince mène l'interrogatoire en sirotant une bière. Le président Doe, également connu pour sa cruauté, sera ensuite exécuté et son cadavre exhibé dans les rues de Monrovia. En rupture avec Charles Taylor, Johnson s'exile au Nigeria où il se convertit au christianisme et devient pasteur. Il rentre au Libéria à la fin du règne de Taylor, entame sa transition politique pour être élu en 2005 sénateur du comté de Nimba, sa région d'origine, un siège qu'il conservera jusqu'à son décès. Prince Johnson devient un acteur politique de poids et même un allié pour les dirigeants qui se succèdent, lui conférant une très grande impunité. Toujours opposé à ce qu'un tribunal juge les crimes de la guerre civile, il admet en 2008 sur RFI avoir participé à l'assassinat du président burkinabé Thomas Sankara pour le compte de Blaise Compaoré.
Au Sénégal, l'homme politique et ancien président du groupe parlementaire Beno Bok Yakar, Mustapha Diakhaté, a été condamné à 2 mois de prison ferme pour discours contraires aux bonnes mœurs. Il s'en était pris notamment au premier ministre Ousmane Sonko lors d'une émission télévisée. Il avait qualifié ses électeurs d'électeurs dupés et les Sénégalais de peuple maudit après les législatives anticipées du 17 novembre. L'indignation des avocats au Cameroun. Hier, l'un des leurs, Richard Tamfou, a été molesté par des gendarmes à Douala, la capitale économique. Mais la scène a été filmée par des témoins. L'avocat était en train d'assister un de ses clients lorsqu'il a été agressé. Amélie Tulé.
Un client qui venait de recevoir une convocation de la gendarmerie. Convocation ne signifie pas interpellation. Pourtant, selon le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun et l'organisation de défense des droits humains Mandela Center, des gendarmes lui intiment l'ordre de les suivre. Le client de Richard Tamfou l'appelle donc. L'avocat refuse de le laisser partir avec les gendarmes puisqu'il n'y a ni mandat d'arrêt ni mandat d'amener. Les gendarmes forcent alors Richard Tamfou à monter à l'arrière d'un pick-up et sur les images diffusées sur les réseaux sociaux, un homme en treillis lui marche littéralement dessus. Réaction indignée d'acteurs politiques et d'organisations de la société civile au Cameroun, l'ONG Mandela Center dénonce, je cite, un énième usage excessif de la force et rappelle que le Cameroun vient de passer devant le Comité des Nations Unies contre la torture à Genève, en Suisse. Dans ses recommandations finales, le comité onusien exhorte d'ailleurs Yaoundé à amender le code pénal pour que les supérieurs soient tenus responsables quand des agents des forces de l'ordre commettent actes de torture et mauvais traitements.
Des pluies diluviennes dans l'est de l'Ouganda, elles ont provoqué un glissement de terrain, au moins 15 morts et plus d'une centaine de personnes portées disparues. Le gouvernement a émis une alerte catastrophe. Les routes sont impraticables, ce qui complique les opérations de secours. Les sports et à la CAN féminine de handball à Kinshasa, 2e victoire en 2 matchs aujourd'hui pour le Sénégal. Après avoir étrié le Kenya hier, les Lyonnes se sont facilement débarrassées d'un autre adversaire plus modeste, le Cap-Vert, sur le score de 37-20. Pas de quoi bouder son plaisir avant d'affronter des adversaires de calibre supérieur. C'est ce qu'a confié l'arrière sénégalaise Doungou Camara. Elle répond à Olga Massangou.
Déjà, c'est l'état d'esprit. On a vraiment l'envie de faire bien à chaque match contre chaque équipe. Il y en a beaucoup qui disent oui, voilà, on a joué que des petites équipes depuis le départ, mais bon, ça reste des matchs de travail. Ils nous mettent aussi en difficulté. Sur la première mi-temps, on a eu un peu de mal à dérouler et c'est sur la deuxième mi-temps qu'on a pu rectifier nos erreurs et aller de l'avant. Une victoire, ça vaut toujours plus qu'une défaite dans la tête, dans l'état d'esprit, dans la vie de groupe, tout simplement. Donc, demain ou après-demain, je pense que ça va être l'Égypte. Ça va être un plus gros morceau, je pense. Voilà, c'est des collègues à moi avec qui j'ai joué durant 2 ans. et on verra ce que ça va donner.
Et le Sénégal, quatrième de la dernière CAN, c'était il y a 2 ans. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne soirée. Il est 20h40 ici à Paris.